Voilà, je vais juste relire deux, trois versets que Timothée a lus à l'instant. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Il y a un lien direct entre les jugements de Dieu et nos façons d'agir et de réagir à ces jugements. Et ce matin, j'aimerais parler de Saül et de David, qui sont deux rois qui ont péché gravement. Deux rois qui étaient les premiers rois d'Israël il y a plus de 3000 ans, qui se sont succédés, d'abord Saül et ensuite David. Ces deux rois ont gravement désobéi à Dieu. Mais pour l'un, pour Saül, il sera banni définitivement par Dieu, alors que David retrouvera grâce, retrouvera la faveur de Dieu. Saül était le premier roi d'Israël. C'était un homme beau, un homme grand. Un homme qui était impressionnant par son apparence. Mais son cœur n'était pas attaché à Dieu. Il se laissait guider par ses impulsions, ses craintes, par son orgueil. Il avait du mal à respecter les commandements de Dieu. Et il n'écoutait pas les conseils du prophète Samuel. C'était un homme qui se croyait au-dessus des lois. Un homme qui trouvait sans cesse des excuses pour ses péchés, pour les péchés qu'il commettait. Un jour, Dieu lui ordonne de combattre les Amalécites, un peuple très méchant qui avait attaqué Israël dans le désert. Dieu lui dit de ne rien épargner d'Amalek, de tout détruire, de ne rien garder pour lui, même pas des animaux. C'était un jugement divin à cause de la méchanceté d'Amalek. Samuel part en guerre avec son armée et il remporte la victoire. Quand plus tard le prophète Samuel vient trouver Saül, il entend des bêlements de brebis et des meuglements de bœufs. Et il demande à Saül, c'est quoi ces bruits ? Saül lui répond, j'ai obéi à Dieu. Mais j'ai épargné le roi Agag et nous avons aussi gardé les meilleures bêtes des troupeaux, les brebis, les bœufs, les veaux, les agneaux, tout ce qui avait de la valeur parce que ça, on allait le sacrifier à Dieu. En fait, il n'avait détruit que ce qui était moche et qui n'avait pas de valeur. L'homme fait ça tout le temps, n'est-ce pas ? Dieu le bénit, lui donne l'intelligence, la force, met en place les circonstances de sa réussite. Et lorsqu'il est arrivé au sommet, il se vante de ses formidables qualités. Il devient vaniteux. Il s'approprie entièrement la réussite de sa vie, oubliant la volonté de Dieu et oubliant même jusqu'à l'existence de Dieu. Alors Samuel lui transmet un message de la part de Dieu. C'est tout ça, vous lisez dans 1 Samuel 15. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Ce que Dieu dit à Saül, c'est: Saül, ton soi-disant culte à Dieu est un culte satanique qui vient tout droit de l'inspiration démoniaque. Dieu n'est pas intéressé par tes sacrifices et tes plans fumeux. Il aurait mieux valu pour toi que tu obéisses à la parole plutôt que d'en faire à ta tête. À cause de ta malhonnêteté, Dieu te retire la royauté et la donnera à David. Saül est effrayé et il réalise qu'il a gravement péché. Mais la seule chose qui l'inquiète vraiment, c'est de perdre la face devant le peuple et les responsables du peuple. Il essaye d'influencer Samuel en adoptant une attitude de pseudo-repentance. Et ce fut la dernière fois que Samuel alla rencontrer Saül. Saül commença à éprouver de l'amertume contre David. Question. Pourquoi Saül n'a-t-il pas réagi immédiatement? Pourquoi n'a-t-il pas accepté le jugement de Dieu en disant: oui, c'est vrai, j'ai péché, j'ai fait ce qui était mauvais, j'ai fait ce qui était mal, j'ai oublié d'obéir. Mais Saül ne s'est pas repenti. S'il s'était repenti, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait fait ce que Samuel a fait après, c'est-à-dire il a exécuté le roi d'Amalek. Ça semble cruel comme ça, n'est-ce pas? Mais Amalek est une image de la vie naturelle, de la vie charnelle qui vient lutter contre Dieu en permanence et qui doit être éliminée de notre quotidien. L'apôtre Paul avait compris cela et il nous le dit, il nous le transcrit à sa manière dans Romains 8. « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Et si vous vivez selon la chair, si vous vivez selon Amalek, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Pourquoi, lorsque le Seigneur nous montre notre péché, nous refusons d'agir avec force? Certains disent: le péché, tu vas devoir composer avec toute ta vie. Bien-aimé, si vous composez avec le péché, il vous mènera tout droit en enfer. La source du péché, la vitalité du péché est satanique. Et si vous ne faites pas mourir les actions du corps par l'esprit, c'est le péché qui bientôt étouffera les actions de l'Esprit de Dieu en vous. David est le second roi d'Israël. Il est choisi par Dieu pour remplacer Saül. David est un jeune berger. Il garde les moutons de son père. Il a le cœur rempli d'amour pour Dieu, il joue de la harpe, il compose des psaumes, il est courageux, il est fidèle. Il a confiance en Dieu, il respecte les commandements de Dieu, il écoute la parole du prophète Samuel qui l'a oint. Il se sait pécheur et il demande pardon à Dieu. Un jour, alors qu'il est devenu roi, David commet un péché très grave. Il profite de son autorité de roi pour voler la femme d'un de ses officiers et pour s'assurer que celui-ci ne viendra jamais réclamer sa femme. Il organise un plan pour qu'il se fasse tuer à la guerre. La femme s'appelait Bathsheba. Elle était la femme d'Uri. Bathsheba est devenue enceinte. Et Uri est mort au combat. Mais Dieu avait tout vu. Et il n'était pas content. Quand le prophète Nathan est venu voir David, il lui a raconté une histoire. Et il lui dit, il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait beaucoup de brebis et de bœufs, mais le pauvre n'avait qu'une toute petite brebis, qu'il aimait comme sa fille. Un voyageur arriva chez le riche, qui ne voulut pas prendre une de ses propres brebis pour le nourrir, mais qui prit la brebis du pauvre et la tua. David, qui pensait que cette histoire était une histoire vraie, se mit en colère contre l'homme riche. Et il lui dit qu'il méritait la mort et qu'il devait absolument rendre 4 brebis à l'homme pauvre. Alors Nathan lui dit, « Eh bien, cet homme, c'est toi. Tu as tué le pauvre Uri et tu lui as pris sa femme, Bathsheba. » Bathsheba signifie « fille du serment ». David a rompu 2 serments. Il a rompu le serment d'obéissance à Dieu et il a rompu le serment que le mari et cette femme s'étaient échangés mutuellement. Nathan avertit David qu'il y aurait des conséquences graves et des malheurs pour lui et pour sa famille. Contrairement à Saül, David n'a pas discuté. Il a reconnu son péché. Il a demandé pardon à Dieu. Et il a accepté la conséquence de son péché, qui était la mort de son jeune fils. Il a jeûné, prié pour son enfant, mais quand il a appris sa mort, il s'est levé et s'est lavé, et il est allé adorer Dieu. Et il a dit, à propos de l'enfant, « Je m'en irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » Alors David a composé aussi un psaume, le psaume 51, si vous voulez le lire chez vous, c'est en lien avec cette histoire, avec ce péché, dans lequel il manifeste profondément à quel point il regrette ce qu'il a fait. C'est un psaume de repentance et le désir de se convertir et de plaire à Dieu. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Bien-aimé, est-ce que vous avez déjà écrit votre psaume de repentance? Ou est-ce que vous faites seulement lire celui de David? Nous devons tous écrire notre psaume de repentance. L'histoire de ces 2 rois nous fait réfléchir, n'est-ce pas, sur notre propre repentance. Se repentir, ce n'est pas seulement reconnaître ses péchés au jour le jour et demander pardon. Se repentir, c'est se détourner du péché avec un cœur sincère et rechercher la transformation par la grâce divine. Dieu est miséricordieux, il pardonne à ceux qui ne cherchent pas d'excuses à leurs péchés. Mais Dieu est aussi juste et il ne laissera pas sans conséquence notre péché. Quelle attitude avons-nous face au péché ? Sommes-nous comme Saül qui se justifie et cherche à éviter les conséquences ? Ou est-ce que nous sommes comme David qui s'humilie et qui demande pardon à Dieu ? L'apôtre Pierre, dans la deuxième épître, dit que ceux qui se repentent pour finalement recommencer à pécher sont comme des chiens qui mangent leur nourriture et la recrachent pour la manger à nouveau. 2 Pierre 2:20. En effet, si, après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau, ils sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du Saint Commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavé s'est vautré dans le bourbier. N'est-ce pas ça que nous faisons ? Nous péchons, prions pour demander pardon, reprenons le cours de notre vie et faisons le même péché. N'est-ce pas ainsi que nous faisons ? Nous demandons pardon, nous sommes lavés et rendus propres et nous reprenons le cours de notre vie pour à nouveau nous vautrer comme des cochons dans la même boue nauséabonde. Jésus dit dans Matthieu 7:6, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Qui sont les chiens ? Qui sont les pourceaux ? Les matérialistes égoïstes, les calculateurs stratégiques, les jouisseurs mondains, les intellectuels corrompus, les religieux orgueilleux, les faux frères manipulateurs, tous ceux qui se vautrent dans la boue du péché. À ce genre de personnes, le Seigneur ne peut rien offrir parce qu'ils sont invisibles pour Dieu. Ils ne peuvent pas apparaître devant le trône de la grâce parce qu'ils n'ont pas l'intention de vivre pour Dieu, mais vivent pour eux-mêmes, pour la satisfaction de leur nature charnelle. Ils ne vivent pas pour s'amasser des trésors dans le ciel, mais pour collectionner des récompenses sur la terre. Ils ne veulent pas se laisser déposséder et tout perdre pour gagner Christ. Leur vie charnelle est bien trop précieuse pour répondre avec passion à l'appel du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est venu pour sauver ce qui était perdu, pour transformer ce qui est charnel en ce qui est spirituel. Le Seigneur ne peut pas non plus entendre leurs cris, leur déception, leur défaite, comme il n'a pas entendu l'angoisse de Saül. Parce que celui-ci ne voulait pas que l'Esprit de Jésus le transforme. Il ne voulait pas devenir spirituel. Il voulait l'approbation de Dieu, tout en conservant sa vie naturelle, rebelle, nauséabonde, moche et satanique. Le Seigneur Jésus ne répondra pas aux demandes larmoyantes d'hommes et de femmes qui vivent pour le plaisir de la chair, pour la recherche d'émotions passagères et qui souffrent des conséquences de leur association avec Satan. Le Seigneur Jésus ne peut rien faire pour ceux qui, sans arrêt, retournent à leur vomi, vers le monde, vers leur esclavage du monde. Comme dans la mythologie grecque, où Sisyphe était condamné à rouler éternellement un rocher jusqu'au sommet d'une montagne où il retombait à chaque fois. Jésus est venu pour délivrer, pour nous délivrer du cycle mortifère dans lequel nous nous sommes installés. Il est venu pour délivrer ceux qui haïssent leur captivité et leur esclavage. Jésus est venu pour ceux qui sont prêts à mourir plutôt que de continuer à pécher. Il est venu pour ceux qui préfèrent se couper le pied ou la main ou s'arracher un œil plutôt que de continuer à répéter sans cesse les mêmes actions, les mêmes péchés, les mêmes futilités. Dans Matthieu 5, 27, vous lisez, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Jésus dit qu'il est préférable de vivre mutilé plutôt que d'entrer dans la géhenne avec tous ses membres. La véritable repentance commence par l'acceptation des conséquences de son péché, puis par la haine de son péché, puis par l'arrêt radical des habitudes de consommation, les médias, les vidéos YouTube, les films, les livres, les conversations sur Internet. Internet est une occasion de chute. Mais avant Internet, il y avait aussi des occasions de chute. Mais si Internet est une occasion de chute, alors coupe la connexion. Jésus ne demande pas à ce qu'on se coupe des membres, c'est pas ça qu'il demande, vous le comprenez bien, n'est-ce pas? Mais de couper avec ce qui fait le problème. Ah oui, mais je ne pourrai plus regarder les vidéos chrétiennes alors. Ah oui, mais tu ne résistes pas aux suggestions qui te sont faites sur la page Internet. Et tu cliques n'importe où sur des liens qui te font tomber dans le péché. Satan est prêt à te trouver les meilleurs prédicateurs du monde pour te faire cliquer sur le lien juste à côté. Il nous faut arrêter de renforcer la puissance du péché. Il nous faut arrêter d'alimenter nos pensées, nos idées de choses indignes et malpropres. Il nous faut couper avec les habitudes néfastes. Il y a des gens qu'il faut arrêter de fréquenter, peut-être. Et si pendant un temps, il nous faut vivre comme un ermite, se cloisonner, entrer dans la solitude, eh bien alors faisons-le. Plongez-vous, plongeons-nous dans la lecture de la Bible. Alimentons notre esprit avec de bonnes choses. Offrons notre corps à la pureté. Romains 12, 1, nous lisons un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre cœur, de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés, voilà ce que le Seigneur attend de nous. Jusqu'à ce qu'un jour, dans sa grâce, il nous accorde la délivrance. Mais le Seigneur Jésus ne délivre que les âmes honnêtes et sincères. Pas les Judas, pas les Ananias et Saphira. Dieu veut faire de nous des fils et des filles libres. Il veut nous faire rentrer à la maison, nous donner un repos éternel à notre âme. Je propose que nous passions un temps dans la prière.